Les interviews du doc, c'est maintenant sur Vinyl Time.
Et ben voilà les amis, alors c'est une belle surprise aujourd'hui parce qu'on va discuter un petit peu avec Barton Hartshorn qui vient nous présenter son album Manchester Sun qui est sorti depuis le 14 octobre, ça fait un gros mois maintenant, il est sorti via Succeed Digger's Factory et l'idée aujourd'hui bah, c'est de vous faire découvrir ce disque parce qu'il est très... Moi j'ai adoré cette musique qu'il y a autour de ce Manchester Sun, alors... vous allez être surpris parce que vous pensez entendre quelqu'un qui va vous parler anglais et je vais faire la traduction comme d'habitude, mais non, pour une fois, on va faire tout en français. On va tout d'abord remercier Barton d'avoir pris un temps pour être avec nous dans Vinyl Time et venir parler de ce nouvel album. Barton, bonsoir, merci d'avoir pris un temps pour venir parler avec nous de ce Manchester Sun.
Ça fait plaisir d'être là.
Barton, alors,
virtuellement.
Ouais, bah, grande surprise de redécouvrir un album qui arrive très très vite après l'ancien. Et puis, il y a déjà beaucoup de bonnes critiques chroniques. Alors, on va commencer d'abord par le côté hyper intéressant pour toi. Un mois après, parce que l'album est disponible depuis un mois, beaucoup de gens l'ont écouté. Moi, je l'ai écouté attentivement parce qu'il y a plein de choses à discuter autour de cet album. Comment te sens-tu un mois après la sortie de cet album?
Jusque là, je suis très très content de l'album. Ça dépend. J'avoue que pour le précédent, par exemple, il se trouve, et je pense que c'est quelque chose d'assez répandu parmi les artistes, non, sans doute non seulement les musiciens, que on passe tellement de temps à terminer un album ou un livre ou un autre œuvre d'art. On ne veut plus l'entendre, le voir, y penser pendant un certain temps après. Pour moi, c'est toujours un très bon signe que j'ai toujours. Franchement, moi, ça me fait plaisir de réécouter les morceaux de cet album aujourd'hui. Et donc, pour les albums précédents, pour certains, ça m'a pris peut-être 3, 4, jusqu'à 6 mois même avant de vouloir entendre même une note, parce que voilà, c'est ça. Après les avoir entendus des centaines de fois, ça peut être un peu difficile.
Ça peut être comme une overdose que tu es en train de nous décrire, mais en tout cas, c'est pas le cas pour ce Manchester Sun. Alors, c'est quoi la différence, alors justement? Pourquoi justement cette différence entre Not What I Expected to Hope For et ce Manchester Sun, par exemple?
Je ne peux que l'expliquer. Je l'explique peut-être par le fait que pour moi c'est un album plus honnête que Not What I Expected to Hope For, où j'ai essayé. Je dis on a essayé parce que j'ai beaucoup travaillé avec Vincent Guibert qui a co-réalisé l'album et on a arrangé ensemble aussi. Un musicien avec lequel je travaille depuis longtemps. Moi de toute façon, moi j'arrive toujours, c'est presque une blague entre nous, parce qu'on fait toutes les maquettes des albums ensemble et on essaye de trouver une direction. Et systématiquement, quand je lui apporte les nouvelles chansons, il me regarde et il me dit mais c'est très folk tout ça, hein. C'est très folk. Et je lui dis, mais non, Vincent, c'est pas que c'est folk, c'est que je suis, voilà, j'ai écrit quasiment tout à la guitare acoustique. Et donc, forcément, ça a une couleur, une tonalité, quand c'est juste chanté guitare-voix, ça sonne plus folk. Mais on sait toujours qu'après avoir travaillé dessus, on arrive à lui donner des couleurs peut-être plus pop, peut-être plus americana, peut-être plus rock, même un peu soul, parfois. Selon la direction qu'on veut prendre avec l'album. Et alors, pour Not What I Expected, l'album précédent, ça fait partie des albums où on a essayé justement de peut-être détourner l'identité des chansons. Mais pour le dernier, pour Manchester Sun, je les ai laissés tels quels, en fait. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que je trouve cet album, voilà, plus clair et honnête.
Est-ce que c'est aussi parce que tu as travaillé un petit peu sur tous les instruments dans cet album qui font aussi que c'est peut-être plus différent de ce que tu avais pu faire auparavant?
Peut-être. J'ai toujours joué un peu de plusieurs instruments sur mes albums, mais c'est vrai que sur les albums précédents, il y avait aussi mon groupe avec lequel je jouais depuis assez longtemps. Et j'ai toujours au moins joué un ou deux morceaux à la batterie sur chacun de mes albums, un ou deux morceaux à la basse, quelques pianos. J'ai pris l'habitude de jouer un peu de tout quand je... Puisque je réalise des albums pour d'autres artistes et donc je me suis retrouvé depuis des années dans des situations où je contribuais plusieurs instruments sur les albums pour d'autres personnes et ça m'a permis d'apprendre, de mieux apprendre à jouer ces instruments et donc là je m'en suis servi pleinement peut-être pour la première fois.
On reviendra sur ceux qui t'ont aussi, pardon, accompagné, parce qu'il y a, tu n'es quand même pas tout seul, hein, il y a quand même, on va
Non, non,
parler un
non.
petit peu de Mélissa Cox dans un
Tout à
instant, on
fait.
va parler un petit peu de David Lewis aussi, qui
Oui,
sont des
oui.
gens qui ont participé avec toi. Alors, on va aussi expliquer pour les gens qui vont te découvrir, que tu vis beaucoup à Paris, que tu as quand même une forte approche et accroche avec l'Angleterre. Et c'est un petit peu pour ça aussi où j'étais un petit peu surpris. Je ne te le cache pas. Quand on m'a présenté le disque, on m'a dit bah oui, tu vas voir, il parle bien français, il vit en France, il est très anglais, mais il est très français aussi. Est-ce que ce mixte maintenant que tu vis en fait entre ces deux pays, ces deux cultures qui sont quand même proches et parfois si différentes, t'amène
Eh oui.
aussi une approche dans ta musique, dans ta manière de composer des titres. Et on parlera juste après sur cette question métaphysique où tu vas avoir 2 heures pour répondre du morceau Starter Kiss qui fait très franco-anglais en fait, hein, on dirait
Ah
presque.
bon?
Moi, je l'ai comparé quand je l'ai écouté à la chanson de Sting qui était un Englishman in New York. J'avais l'impression que
D'accord.
c'était le Kiss français qui venait d'un anglais. Alors voilà, j'ai fait un petit mixte en l'écoutant, mais j'ai trouvé cette chanson tellement sympathique que je me suis dit, il faut quand même que je lui pose la question si cette vie, cette dualité de vie entre ce que tu vis à Paris maintenant et l'Angleterre est quelque chose qui te fait aussi approcher ta musique différemment.
Sans aucun doute, j'ai toujours eu du mal à mettre le doigt dessus. J'aimerais bien pouvoir répondre à ta question, Olivier, vraiment très très clairement et de façon précise. Mais je pense que j'aurais besoin encore de quelques années de psychanalyse avant de pouvoir le
D'accord,
faire.
bah écoute, tu reviendras me voir, on fera la psychanalyse ensemble.
Oui, exactement.
Et ce morceau
Parce
Starter
que
Kiss, alors pour
c'est...
le coup, parce que c'est quand même le morceau qui lance quand même l'album, et c'est quand même un morceau, c'est le premier morceau qui a été, c'est un des morceaux qui a été partagé
Oui.
comme single. Ça marque aussi c'est cette première passion, ces premiers baisers, ces premières choses, voilà,
Oui.
qu'on rencontre. Est-ce que voilà, tu avais vraiment envie de partager ces émotions à travers quand on est jeune, par exemple, où on va embrasser pour la première fois une jeune fille ou un jeune homme, hein, puisque maintenant tout est ouvert. Est-ce
Oui.
que ça te voilà, c'était quelque chose que tu voulais nous partager, ce premier baiser et cette palpable voilà, petite crainte qu'on a toujours quand on en est à ce début.
J'étais un tout petit peu mal à l'aise avec oui, justement avec l'honnêteté peut-être, avec justement de ce partage, comme tu dis, de choses très très privées finalement. Et en fait, c'est vrai, comme pas mal de mes chansons, à peu près un tiers des chansons pour mes albums vient, et je sais que c'est très bizarre, j'ai un peu de mal à l'expliquer, viennent de mes rêves. C'est-à-dire que je me réveille plusieurs fois pendant la nuit, parfois, certaines périodes, je ne dors pas très bien. Et je rêve la musique la nuit, c'est-à-dire je rêve que je suis à un concert ou en train de jouer la guitare ou écouter la radio et il y a une musique qui sort en rêve et c'est toujours des gens connus mais la chanson n'est pas connue. Et à ce moment-là, je me réveille et j'enregistre la mélodie et les paroles, quelques paroles, parce que les paroles évaporent rapidement une fois qu'on est réveillé. Et donc, cette chanson-là était dans mon rêve, chantée par Paul McCartney.
D'accord.
Donc, je suis réveillé avec toute la mélodie, les accords et la première ligne. Can you feel that kiss?
D'accord.
Et donc, je vais continuer à partir de là. Et d'autres chansons sur l'album viennent de la même source. Il y a Georgetown sur l'album qui était chanté dans mon rêve par Bruce Springsteen. Ça m'arrive depuis l'âge de 14 ans. Ça commence à l'âge de 14 ans et ça n'a jamais arrêté.
Oui. Et comment tu fais? Tu te lèves et tu vas à l'ordinateur ou tu as un petit carnet ou tu as ton téléphone à côté de toi et puis tu fredonnes le titre, comme un message? Comment tu fais alors?
J'ai mon téléphone. Je chante dans mon téléphone. C'est pour ça que mon groupe avant, pendant 10 ans avant de faire carrière solo, mon groupe d'avant s'appelait Dictaphone.
Bah oui, normal.
Voilà, parce que avant les téléphones, voilà, c'est tout.
Oui, il y avait le dictaphone, la petite cassette. Ouais, je me souviens, j'en ai plein à la maison, les toutes petites cassettes. J'en ai plein.
J'ai fait le tri l'autre jour, j'en ai 35. J'ai 35 petites cassettes des années de qui sont tous des mélodies murmurées à 3h du matin, à 5h, à 6h.
Ben voilà. Comme quoi des fois les rêves ou les non-rêves ou le fait d'être entre deux eaux peut-être, entre un cauchemar et la réalité, peut nous amener à créer des belles chansons. Moi j'invite tout le monde à aller écouter ce morceau qui est magnifique, Starter Kiss il s'appelle, voilà, vous avez compris, il a été écrit pendant une période de nuit agitée de Barton, et puis on retrouve un très très beau morceau. Barton, on est obligé maintenant de parler un tout petit peu quand même du morceau qui est... une grosse pièce dans cet album qui s'appelle Sémaphore Signal. Le morceau fait 7 minutes, il est magnifique. Il y a Melissa Cox qui joue du violon dessus. Est-ce que c'est un des plus beaux morceaux que tu aies écrit?
Je sais pas. C'était un morceau qui était mis de côté de l'album précédent. Je l'avais composé, il faisait partie des morceaux. Celui-là n'était pas rêvé. j'étais bel et bien réveillé pendant celui-là. Et je ne sais pas pourquoi on l'a mis de côté. Il y avait peut-être pas mal de parties. Il n'est pas très simple. Je pense qu'il y a au moins 4 parties différentes dans le morceau. Mmh. Et je ne sais pas si c'est le plus beau. Les paroles, il est un peu différent puisque les paroles, moi j'aime bien les chansons qui sont un peu linéaires. Je viens d'une tradition justement folk à la base et j'aime bien, c'est aussi l'influence de la chanson française, de la culture française, le fait que j'aime bien raconter des histoires dans mes chansons. Ce qui est quelque chose qui est pas très britannique à part dans le monde plus traditionnel du folk, des troubadours qui racontaient des histoires, qui avaient des choses vraiment à partager. Et donc la plupart de mes chansons ont une espèce de un fil et on peut le suivre. Parfois il fait demi-tour, il va à gauche à droite, mais en gros il reste sur une histoire qui commence, qui a un début, et Sémaphore Signal est un des rares où après deux lignes, quand j'étais en train de l'écrire, je me suis rendu compte que là, il y avait une opportunité de faire quelque chose d'un peu différent. Et donc, je l'ai écrit un peu comme, je ne sais pas si vos auditeurs sauront les méthodes en anglais, on appelle du cut-up. Donc du cut-up. Ça a été inventé par William Burroughs, l'écrivain américain. Et donc, ça a été beaucoup utilisé par Bowie ensuite, et Lou Reed, d'autres personnes, où vous écrivez plein de lignes différentes, ce qui vous vient à l'esprit, et après, plutôt que ce soit un linéaire, vous les coupez tous en morceaux et vous les jetez en l'air.
Voilà. D'accord.
Et une fois tout ramassé, on finit par trouver un ordre qui est parfois plus esthétique qui n'a pas forcément un sens immédiat. Le sens n'est pas évident, puisqu'il n'y a plus de fil. Justement, ce fil dont je parle a été coupé à plusieurs endroits. Et donc, donne autre chose. Donc, c'est une réponse très longue à ta question. Je suis
Ouais.
désolé.
Non, 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 mais c'est intéressant de voir comment le travail de composition est fait à travers ce morceau. C'est hyper intéressant.
Voilà. Au début, voilà, à la base, il n'était pas censé être aussi long, mais quand j'étais en studio, pas très loin de là où je suis, à Oxford actuellement, à la campagne, en Angleterre. Et j'ai enregistré les pistes de guitare folk dans un beau studio à la campagne. Et ce morceau-là, j'avais perdu ma place au milieu du morceau. Je ne savais pas si j'avais déjà joué parce que j'ai pas fait le chant en même temps pour ce morceau-là. Il y a quelques morceaux que j'ai fait guitare-voix en même temps sur l'album, mais celui-là, j'ai pour terminer les paroles. Donc je me suis dit, voilà, je vais juste enregistrer la guitare acoustique et tout construire autour de là. Et quelque part au milieu de ce morceau, pendant l'enregistrement, je me suis rendu compte que je ne me souvenais plus si j'avais déjà joué le deuxième couplet ou non. Et donc, je l'ai rejoué, en fait, je l'ai joué, et à la fin, je me rends compte que je l'avais déjà joué. Et c'est pour ça qu'il fait 7 minutes.
Voilà, bah, comme quoi des fois, hein. Comme quoi.
Oui, mais une fois joué, en fait, je trouvais qu'il y avait une courbe, une dynamique naturelle, et que je ne pouvais plus enlever une partie de ce que j'avais joué, en fait. Que c'était très naturel. Et même, je me souviens que l'ingé son au studio, quand j'avais terminé celui-là, il m'a regardé, il m'a dit, wow, c'était épique comme chanson. Il voulait dire, je pense que c'était trop long. Il était gentil.
Il a été...
Mais,
Il a pas osé
voilà.
dire, c'est un peu long.
Il n'a pas osé le dire, il n'a pas osé le dire. Mais en tout cas, j'ai gardé cette longueur, cette dynamique, et j'ai tout construit autour. Et donc, c'est peut-être ça qui m'a poussé à faire des paroles un peu différemment, parce que je sentais que, à moins d'être Bob Dylan, il est dur de raconter une histoire sur 7 minutes en chanson. Voilà.
Et ben voilà, donc, et en parenthèse de ça, il y a donc Melissa Cox qui intervient aussi sur ce titre, qui est une grande amie, très proche amie de Elliot Murphy, qui habite comme toi aussi à Paris. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Elliot Murphy à Paris?
Et non, je l'ai jamais rencontré. J'en ai parlé à Mélissa l'autre jour quand on a fait une session live pour Rolling Stone l'autre
Oui.
jour et je lui ai dit un jour et faudrait bien que tu me présentes à Elliot quand même. Ça
Bah,
fait longtemps
je vais te donner son numéro
qu'on est
parce
là,
que je
mais
l'ai.
d'accord. Un
Mais
jour, un de
voilà.
ces jours, ça va se passer, mais pas encore.
Ouais, bah, j'espère bien parce que
Encore.
j'aimerais bien vous voir tous les deux sur scène en fait à un moment donné dans un petit jazz café ou un petit truc comme ça où on soit entre potes et qu'on voit arriver
Ce serait
Mélissa,
génial,
Elliot,
ça.
toi et puis voilà, chacun prend sa guitare, son petit instrument et balance quelques titre, voilà, en franche camaraderie. J'adorerais vous voir ensemble. Tiens, l'invitation est
Ah, mais
lancée.
ça,
Hein? Message
je dirais
lancé.
pas non. Voilà.
Message lancé. Et puis, pour revenir à cet album, Manchester Sun, Barton, tu as aussi travaillé avec David Lewis, un fantastique trompettiste, qui est venu s'ajouter dans cette collaboration. C'est aussi un grand bonheur pour toi de l'avoir, puisque on a parlé bien sûr de Mélissa, on a parlé de Vincent qui était plus côté piano. Il y a aussi David Lewis avec toi. C'est une belle équipe en fait sur cet album, non?
Une très très belle équipe. J'ai la chance de j'ai rencontré David à Paris. En fait, on habitait vraiment à 2 rues l'un de l'autre. On
C'est
emmenait
dingue, mais c'est dingue ces
nos
gens qui habitent
enfants.
Paris, c'est fou.
Mais oui, on emmenait nos fils respectifs à la crèche il y a des années. Et un jour, je vois ce monsieur avec ce que je reconnais étant un étui de trompette, donc je me suis dit, bien falloir qu'il parle. Et donc on est allé prendre un café ensemble, et donc on se connaît depuis longtemps. J'ai joué sur ses projets, il a joué sur les miens, il a joué, je le fais venir, il a joué sur beaucoup d'albums que j'ai réalisés pour d'autres personnes, que ce soit l'album de Roxane Arnal, Pauline Paris. Là, je suis en train de réaliser un album pour un autre artiste en ce moment, et David Lewis il joue aussi. Et on a aussi collaboré sur des musiques de films australiens ensemble. Donc oui, tout à fait. C'est un musicien absolument extraordinaire, non seulement trompette et bugle, mais aussi en tant que pianiste et arrangeur.
Ouais. Tiens, je rajouterai aussi, tu as raison, Roxane, puisqu'elle est venue nous présenter son album il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on peut la rajouter avec vous aussi, si on se fait une soirée au coin du bois avec les guitares. Je pense que ça pourrait être sympa.
Tout à fait, ce serait très bien, voilà. très bien. Elle joue avec des excellents musiciens aussi.
Ouais, et puis elle est bientôt au concert. Elle est bientôt au concert aussi, en début d'année prochaine. Il y a quelques belles dates qui arrivent. J'espère qu'on pourra te voir. Tiens, on va juste ouvrir un petit peu la page concert avant de revenir sur ce Manchester Sun. Est-ce qu'on aura la chance bientôt de te voir live?
Ah, mais j'espère aussi. Il n'y a pas encore de date fixée, mais j'espère vraiment que... À part en Angleterre, j'ai quelques dates par ici, mais pas en France pour l'instant. Mais bon. ça va venir bientôt. Il y en aura l'année prochaine.
Ouais, oui, bon, on va suivre ça. De toute façon, on continuera à suivre l'actualité. On mettra les dates, bien sûr, dès qu'on en aura. Puis on sera les premiers à venir te voir pour écouter ta musique, qui nous fait plaisir à entendre. On est des amis avec Barton Archer. On parle de ce Manchester Sun qui est disponible. Depuis le 14 octobre, si vous ne l'avez pas écouté, allez découvrir cette musique qui est vraiment très 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 belle. Barton, avant de finir, il faut aussi qu'on parle du dernier titre qui s'appelle Long May the Cloud, Rain Over Us, qui m'a surpris. Parce que cette intro de basse au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce morceau fait là à la fin? Il y a ce morceau de basse qui arrive, c'était un peu mélancolique, il y a du violon, il y a tout ça. Puis là, on a un dernier morceau qui démarre avec une basse vombrissante. Quelle était l'idée cachée pour nous mettre de la basse sur un dernier morceau en introduction?
Alors, bon, il y a deux questions là-dedans, mais la raison pour laquelle elle est vraiment en dernière position sur l'album, parce qu'elle est tellement différente que c'était impossible à caser ailleurs. Je ne pouvais pas suivre ce morceau avec un autre. Alors l'idée de basse, la basse était censée être une contrebasse. C'est un morceau que j'ai composé. Je chantais avec mon casque de scooter. J'étais en scooter sur le bassin d'Arcachon un été et je faisais le tour du bassin et j'ai eu cette idée de mélodie et j'ai commencé à chanter et en 20 minutes j'avais composé entièrement ce morceau-là. Et dans ma tête, juste en accompagnement, il y avait juste la ligne de basse. C'était au début, ça allait juste être contrebasse, voix, d'accord, rien d'autre. Et plus j'y pensais, je me suis dit ce serait bien juste d'emmener une guitare un peu jazz dans les sonorités un peu jazz dans le refrain. Et donc c'est ce que j'ai fait. Mais elle est assez différente, oui. Elle est assez différente des autres. Elle fait pas partie du monde folk. Elle a un pied dans le jazz et l'autre pied, on ne sait pas où.
Voilà. Bon, on continuera cette psychanalyse pour savoir, parce que là, franchement, on se dit que là, il y a quelque chose qu'on a manqué. Vous prendrez deux pilules, monsieur, vous reviendrez me voir après.
Oui, voilà.
Barton, avant de terminer, toi qui es aussi quelqu'un qui a beaucoup de convictions, est-ce que le fait de voir aussi cette vie difficile en Angleterre, puisque tu utilises les deux pays régulièrement, l'Eurostar pour toi n'a plus de surprise, est-ce que de voir le pays, un peu l'Angleterre en règle générale, parce que moi je suis très attaché à l'Angleterre et à la Suède, sont deux pays sur lesquels je vais souvent, je vais beaucoup faire de concerts, j'ai beaucoup d'amis dans ces deux pays, est-ce que voir le pays aussi en difficulté, aussi déchiré dirais, avec tout ce qui se passe en ce moment, te fait aussi écrire ces chansons parfois un peu mélancoliques, parfois un peu déchirées par rapport à la situation de ton pays d'origine et d'attache et de là où sont ta famille. Est-ce que c'est aujourd'hui difficile de voir tout ce qui s'y passe?
Tout à fait, tout à fait. C'est triste de voir ce qui se passe en Angleterre. Je pense que la plupart des gens, même des bons amis à moi à Paris, quand j'y parle, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas que la presse française ne raconte pas par rapport à ce qui se passe en Angleterre. Les gens en France ne sont vraiment pas au, ne se rendent pas compte de la gravité, de la tournure des choses, point de vue économique, social, politique, la tournure des choses que les choses ont pris dans ce pays depuis le Brexit, parce qu'il faut dire que ça c'est quand même le point de départ,
c'est clair,
dans le mauvais sens du terme. Il est très mal vu même de prononcer le mot Brexit ici, même pour ceux qui étaient contre. Les gens ne veulent plus entendre parler.
Ouais.
Et même la presse britannique, ce mot est très peu utilisé et on l'entend jamais à la télé. Par exemple, la BBC ont une peur bleue de ce mot. Et donc, il y a des moments vraiment assez absurdes où on est en train de regarder un reportage sur quelque chose et tout le monde sait que la cause de départ de ce problème-là, c'est le Brexit. Mais personne va le soulever.
N'ose en parler. N'ose plus en parler, en fait. Ouais.
Voilà. Et donc, oui, les choses ici m'attristent beaucoup. Je vois pas vraiment de... Je suis quelqu'un de positif, d'optimiste, par nature. Mais les choses ici sont vraiment sont tristes.
Ouais.
Et je vois pas d'issue pour le moment. Et bien sûr, ça me pousse à. Je me suis jamais considéré comme étant un chanteur politique ou engagé, comme je sais pas si vous les reconnaissez, par exemple Billy Bragg ou d'une autre époque, voilà. Donc quand j'aborde des sujets sociaux, politiques, etc., comme un peu comme la chanson que vous venez de citer, Long May the Clouds, qui était une chanson sur la dictature, je l'aborde pas de face, au fait. J'essaie de raconter une histoire, quelque chose qui tourne autour de la situation, mais plus je passe du temps en Angleterre et plus les choses dégringolent d'une certaine façon, je trouve plus ma voix en tant que chanteur que protest singer.
Ouais.
Voilà. Donc j'en ai déjà un ou deux et je pense que les albums à venir vont contenir de plus en plus de chansons un peu plus directes dans ce sens-là.
Voilà. Bon, en tout cas, Barton, on va te remercier d'avoir pris un temps ce soir pour venir nous parler donc de ce Manchester Sun, le soleil de Manchester. Voilà, c'est la traduction franco-française. With a French accent. Voilà, c'est tout sorti depuis le 14 octobre sur le label Succeed Diggers Factory. On écoutera dans un instant quelques extraits de cet album. Vous allez voir, il y a des très très belles chansons. Barton, on va te souhaiter tout le bonheur de cet album de continuer à avoir de très très bons échos de cet album qui est hyper intéressant et à découvrir, je le répète. Et puis on va te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on y arrive doucement mais sûrement. Et puis on va suivre l'actualité pour savoir quand est-ce qu'on pourra te voir sur scène en France l'année prochaine. Et on suivra aussi la suite des événements. Avant de nous quitter, Barton, as-tu un petit mot pour les auditeurs de Vinyl Time?
Est-ce que j'ai un petit mot pour les auditeurs de Vinyl Time? Mais je les souhaite aussi une très bonne fin d'année. Et j'espère que toutes les situations difficiles qu'on a tous vécues dans ces dernières années vont s'évaporer dans les années à venir. Et que, je les souhaite tous un merveilleux période de fête et un très bon début 2023, bien
Voilà,
sûr.
ben, nous on va terminer cette interview en écoutant, bien sûr, la basse folle de ce morceau, Long May the Cloud, tout de suite. Et on va se faire plaisir. Barton, un grand, grand merci encore. Et puis à très vite en
Très
concert.
bien. Merci beaucoup, Olivier. Bonne soirée.